BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, 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 aïe, 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 je sais même pas quoi dire, je sais, c'est la déprime totale, ça craque de partout, c'est la déprime autour de nous, il y a même des gens qui m'ont dit, mais pourquoi vous appelez pas l'émission, c'était votre argent au lieu de c'est votre argent, mais moi je suis venu ici, aujourd'hui, avec des invités, parce que j'ai trois bonnes nouvelles, d'abord c'est votre argent, toujours, c'est votre week-end, c'est une émission vraiment exceptionnelle, et j'ai envie de dire qu'il y a encore une autre bonne nouvelle, c'est la fin du mois de septembre, et cette fin du mois de septembre, on l'attendait tellement il a été catastrophique, et justement, aujourd'hui, cette émission exceptionnelle, parce qu'on va, vous expliquer exactement ce qui s'est passé cette semaine, mais aussi ce mois de septembre, pourquoi il a été aussi dramatique, hein, d'un point de vue économique, sur les taux d'intérêt, sur les placements, sur la bourse. On va le faire et on va essayer de vous donner des perspectives sur l'économie, sur la finance et les placements. Et évidemment, pour faire ça, bah là, il nous fallait une équipe de stars. A-Team, pour une émission exceptionnelle, il fallait évidemment des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance en cette période de chaos et d'irresponsabilité totale en cette période de tempête sur l'investissement. Bah, qu'est-ce qu'il nous fallait ? Il nous fallait une responsable de l'investissement responsable. C'est simple. Elle est ici, Léa Dunant-Châtelet. Vous êtes donc responsable de l'investissement responsable chez DNCA Finance. Merci d'être venue.
Merci Marc.
On va avoir besoin de vos lumières parce qu'il y a beaucoup d'irresponsabilité autour de nous.
Bien sûr.
Bon, alors, quand on n'a plus de repères, en tout cas moi, quand j'ai plus de repères, j'ai besoin d'un guide. Et en matière de gestion, pour moi, le guide suprême, c'est Romain Burnand, fondateur de Moneta Asset Management. Je suis content de vous avoir là. Vous êtes bien tombé. On avait prévu cette rencontre aujourd'hui. Dans cette période agitée, on a besoin de gens, excusez-moi, d'expérience. Hein. Je ne fais pas de référence à votre âge. D'expérience. Merci d'être venu.
Merci Marc. Bonjour à tous.
On cherche, mais on ne trouve rien. En tout cas, moi, c'est mon cas. Heureusement, elle, elle a toutes les réponses sur la macroéconomie, car elle est directrice de recherche macroéconomique chez Alliance Trade. C'est bien ça ?
Oui.
Anna Boata, merci d'être venue. Merci. On est très content de vous accueillir. Faut-il encore le présenter ? Non, franchement, on le présente plus, non, Romain ?
Non, on le connaît par cœur.
On le connaît par cœur. Sans lui, vous le savez, c'est votre argent. Ne serait pas tout à fait c'est votre argent. Malgré sa mauvaise foi légendaire, ça reste notre ami et notre gourou, Emmanuel Le Chiffre. Toujours un plaisir de vous avoir. On va aussi avoir besoin de vos lumières. Parce que le mot de la semaine qu'on a choisi, c'est crack.
Un joujou extra.
Ah oui, c'est ça, cette semaine, ça a vraiment fait crack, des cracks partout, car il faut appeler un crack. Il y a un crack de la tech, bien sûr, surtout de la dope tech, de ces licornes chimériques. Alors, je sais pas si licorne chimérique, c'est pas un pléonasme. Crack de certaines monnaies, livre sterling, yen, yuan, euro aussi. Crack obligataire avec l'envolée des taux d'intérêt. Nous sommes passés, en fait, en quelques semaines, finalement, quand on prend un tout petit peu de recul et qu'on se dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on est passé d'un monde dans lequel on s'était habitué à des taux zéro ou négatifs en pensant que ça serait toujours le cas, à un monde où les taux d'intérêt sont revenus à des niveaux, j'ai envie de dire, je vais laisser bien évidemment mes invités réagir, à des niveaux normaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'inflation, avec la croissance, avec les déficits, avec la dette, avoir des taux d'intérêt à 2,5, 3, 4%, ben c'est tout à fait normal. Ce qui n'était pas normal, c'était d'avoir des taux d'intérêt zéro. Est-ce que j'ai tort ? Est-ce que je me trompe, Anna Boata ?
Bah c'est toute la question est là. Quel est le taux d'équilibre qu'on devrait avoir pour pas pousser les économies en récession ? Parce que pourquoi le mois de septembre était mauvais ? C'est parce qu'on a, on l'a commencé avec le scénario de fin d'approvisionnement du gaz russe et de la récession qu'on attend en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et donc la question se pose parce que les conditions monétaires et financières commencent à se durcir très vite. On a eu le cas anglais qu'on va discuter, j'en suis sûre, avec des crises de liquidité très violentes. Et donc, on voit bien que le système est bien trop fragile pour augmenter les taux trop rapidement. Et là, on parle de liquidité du marché obligataire, mais on peut aussi penser aux crises immobilières.
Évidemment.
Et donc, du coup,
qui
là,
n'a pas commencé.
Qui n'a pas encore commencé, mais qui donne déjà des signes de faiblesse aux États-Unis et probablement aussi au Royaume-Uni si vraiment la Banque d'Angleterre se mettait à augmenter les taux à 4% d'ici la fin de l'année ou au-delà.
Rappelons juste, hein, excusez-moi, je vous interromps, que les taux hypothécaires aux États-Unis sont passés de 3%, c'est-à-dire le taux d'emprunt moyen des ménages pour acheter un bien immobilier, à 6,5%.
Oui. Exactement. Probablement que la sensibilité est moindre en Europe. Donc, probablement que si on est à 4% en Angleterre à la fin de l'année, on sera à 5, 6. Mais bon, et puis on a quand même une bonne nouvelle, une petite parenthèse, c'est que depuis Covid.
Quand même une bonne nouvelle.
C'est depuis Covid, on a quand même transformé, on a été intelligent en tant qu'emprunteur de transformer 80% de ses prêts à taux fixe. Donc, c'est quand même, ça va être un problème, mais pas très, très court terme.
C'est un problème pour les gens qui vont emprunter, mais pas forcément pour les gens.
Ceux qui, oui, en termes de vraiment disponibilité et de pouvoir d'achat. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, quand on regarde les modèles, on se pose la question, est-ce que les modèles sont encore vraiment d'actualité sur ce taux d'équilibre? On est plutôt à 3% aux États-Unis, 2% en Europe, et clairement,
alors, attendez,
on va aller au-delà.
3%, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt, référence d'emprunt d'État à 10 ans ou le taux d'intérêt court terme?
Taux d'intérêt directeur, donc
qui
va surtout bouger le court terme, ouais, okay. Aux États-Unis, donc 3%. Donc on va aller au-delà de 3%.
On attend 4 à 4,5%. C'est ce que dit la Fed, en fait.
Exactement. À la fin de l'année, on attend ça et probablement qu'on aura ça. La question se posera sur 2023, jusqu'à où on peut peut-être le baisser, voire le garder. Parce qu'on sait qu'il est au-delà du taux d'équilibre. Donc ça veut dire qu'en fait, la récession est à nos portes. Et donc à quel point le système va pouvoir vraiment survivre avec ce 4%, voire plus de taux d'intérêt, c'est une vraie question dans un environnement de dette excessif, qu'elle soit sur les États, mais aussi sur les entreprises.
Ce 4%, 4,5% aux États-Unis, ça, c'est combien en Europe? En zone euro, ça serait quoi?
2,5%, 3%? 2 plutôt. Nous, on est plutôt sur du 2% sur le taux réfi, qui est en fait en ligne à peu près avec le taux neutre, taux d'équilibre, un petit peu au-dessus. Et donc, la question se pose aujourd'hui, exactement quand on regarde les craintes de stabilité financière, à quel moment, en fait, il y aura un pivot et on va commencer à réfléchir à peut-être baisser les taux. Et si on ne baisse pas les taux, à quel moment on va revenir sur des mesures de liquidité, du quantitative easing? Parce que oui, on augmente les taux à court terme, mais à long terme, on ne se permet pas trop de busculer la courbe de taux et donc de causer des problèmes de stabilité financière.
Alors ça, Anna, c'est peut-être un peu le scénario, c'est mon scénario, hein, mais c'est le scénario un peu optimiste qui consiste à dire, avec cette remontée des taux, ça sera suffisant pour casser l'inflation, éventuellement avoir une récession qui sera une récession pas trop profonde. Est-ce que c'est votre scénario, Emmanuel ?
Oui, plutôt dans le sens où moi, il y a rien de dans tout ce qu'on vit. En fait, moi, ce qui me frappe, c'est que il y a pas de dynamique. C'est-à-dire qu'il y a une succession de chocs qui ont des répliques et qui provoquent des conséquences en cascade. Mais à chaque fois qu'on a un choc, ce choc ébranle tout un tas de choses, mais il n'y a pas de dynamique. Sur l'inflation, il n'y a pas de dynamique. Vous avez un choc qui vient des deux crises qu'on a connues, c'est-à-dire crise sanitaire, crise énergétique et géopolitique. Et donc, on voit qu'on est en train de monter des marches à chaque fois. C'est-à-dire que vous avez eu ces deux chocs, ça a provoqué rupture d'approvisionnement, etc. On a eu donc du coup un choc inflationniste. Ce choc inflationniste, il va avoir une violente réplique. Il a une violente réplique sur les taux banques centrales. Il a une violente réplique sur les marchés. Il va avoir une violente réplique sur les salaires. Donc, on va avoir une succession de chocs comme ça qui vont se produire. Mais en aucun cas, on est dans un monde qui rentre structurellement dans une période de forte inflation. Donc,
d'accord. Donc, vous dites quoi? Vous dites qu'on va avoir une inflation qui, à un moment...
On a, et puis surtout, ce qui est aussi frappant, c'est que ces deux chocs, encore une fois, Covid, guerre, ont impacté des trajectoires qui étaient les trajectoires de fond de l'économie mondiale, transition écologique, transition technologique, etc. Et qu'on a une accélération de toutes ces transformations. Et je crois que c'est la vitesse aussi qui nous surprend. Les enchaînements, je suis pas sûr qu'ils soient d'une nouveauté implacable, mais ils sont d'une brutalité et d'une violence qui sont sans précédent. Parce que vous êtes gentil avec vos niveaux de taux d'intérêt, mais si vous recomparez avec le niveau des années 80, quand vous vous effrayez, quand on a 8% d'inflation et qu'on a des taux qui montent à 3 ou 4%,
j'arrête tout de suite parce que cette émission, quand les taux d'intérêt étaient à zéro, je posais la question aux économistes, comment se fait-il qu'un pays qui est une inflation de 1,5 ou 2%, une croissance de 1,5 ou 2%, une dette de 100% du PIB et des taux à zéro, et on m'expliquait que c'était normal parce que c'était les banques centrales.
Non mais Marc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pour ça que je dis que c'est moins grave aussi qu'à l'époque, parce que on n'est pas, encore une fois, dans un cycle inflationniste majeur.
Donc, ça c'est intéressant.
Après, oui.
C'est-à-dire, vous considérez qu'on est dans un choc conjoncturel et pas structurel.
Je dis qu'on vit une série de chocs qui vont avoir des répercussions, on ne les a pas encore toutes vues, et qu'après on va rentrer dans un nouvel équilibre
mondial
avec des taux d'intérêt qui vont retrouver, on va quand même effectivement comprendre que oui, le risque ça a un prix, le temps ça a un prix,
oui. Et voilà, on revient à la normale
et on revient à un monde plus normal après des chocs d'une violence terrible.
Léa, on parlait tout à l'heure avant l'émission et vous dites justement ce scénario qui est un peu le scénario rose qu'on a, c'est-à-dire de dire on a du conjoncturel, ça va se calmer et puis finalement on n'est pas loin de la crête des taux d'intérêt, des taux d'inflation et les taux d'intérêt n'auront pas besoin d'être poussés plus haut. Et vous dites, non, ouais, moi j'ai quand même peur que ça aille beaucoup plus loin qu'on l'anticipe et qu'on s'arrêtera pas à 4 aux États-Unis mais peut-être à 6.
Ouais, j'y crois pas trop moi effectivement. Alors, n'étant pas économiste, je donnerai pas des seuils aussi précis. En revanche, j'aime bien cette image en escalier, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des chocs, on les passe, mais moi je trouve que l'inflation, quand j'écoute les entreprises, elle est beaucoup plus structurelle qu'on ne le dit. C'est-à-dire qu'on parle des grands chiffres qui sont utilisés traditionnellement, mais si vous écoutez sur la logistique, sur l'approvisionnement en certaines matières premières, mais pas forcément énergétiques,
tout ça s'améliore.
Ça s'améliore, mais il va y avoir des tensions. La Chine n'est pas réouverte, ils le disent très clairement. On n'a pas une économie qui est celle qu'elle était avant le Covid. On a une accélération de la croissance dans les pays émergents qui amène énormément de demandes sur des biens de consommation où il y a derrière des matières premières en stress, y compris alimentaires, ça c'est le fruit de la géopolitique, mais que ce soit des matériaux de base ou même, je pense aux pneus, Michelin par exemple, c'est extrêmement
intéressant.
Donc vous,
les remontées que vous avez des entreprises, c'est qu'on n'est pas du tout au pic d'inflation.
Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a les salaires, et ça y est, les salaires c'est bien enclenché, et toutes les négociations salariales qu'on voit en Europe, on ne va pas baisser les salaires dans 6 mois. Hein. Ça y est, on passe des hausses de salaires à 5, 10, oui. 15, j'ai même vu 22% dans certaines entreprises anglo-saxonnes.
C'est cette idée qu'on est, on est devant nous face à une espèce de mur, il faut bien le dire. C'est-à-dire que le mur entre la situation des entreprises qui va se dégrader au moment où les revendications salariales vont atteindre leur sommet, parce que c'est ça qui est en train de se passer, c'est que vous regardez tous les indicateurs sur la trésorerie, etc. En fait, les salariés, c'est très clair, vu les tensions sur le marché du travail et vu tout ce qu'on entend sur les surprofits, etc., ils sont convaincus que les entreprises sont gavées d'argent. Mais les revendications vont culminer à un moment où, finalement, l'argent, il sera plus vraiment là. Et ça, moi j'ai peur beaucoup, en fait, de cet hiver. Voilà. Pour moi, il y a un énorme mur devant nous cet hiver. Et après, je ne suis pas pessimiste.
Léa, très rapidement.
J'ajoute un point rapidement qui est très intéressant quand on écoute les entreprises, c'est qu'elles sont effectivement en stress financier. Elles sont en stress également du fait de l'énergie. Et la plupart ne sont pas en train de se demander comment elles vont produire demain. Elles sont en train de se dire qu'elles vont fermer pour des questions de qualité bilancielle. C'est-à-dire que là aussi, le stress sur l'approvisionnement que j'évoque dans tout un tas de secteurs, on va le voir parce qu'on est en train de perdre des acteurs. C'est la grande crainte en Allemagne d'ailleurs.
Romain, est-ce que c'est une situation, on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est une situation qu'on a déjà vue? Alors, c'est des situation qu'on a déjà vue par petits morceaux, mais moi, je n'ai pas souvenir d'avoir eu un tel réajustement en termes de taux d'intérêt, en passant d'une aberration, qui était ces taux à zéro négatifs, à des taux qui maintenant paraissent normaux, mais qu'ils ne paraissaient pas il y a encore 6 mois. Est-ce que vous avez déjà des références historiques sur ce type de choses? Et qu'est-ce que ça vous inspire, cet environnement, et notamment les entreprises avec lesquelles vous, dans lesquelles vous investissez?
Alors, je vais répondre directement à votre question. C'est-à-dire, vous avez un truc, on craque, les gens sont tous inquiets. Mais en fait, si on regarde ce qui se passe en bourse, hein, au niveau des marchés des actions, les marchés des actions ont perdu 20% par rapport à leur plus haut, qui était un plus haut historique. Et ils sont revenus au niveau de fin 2019, en général. Alors, je parle des marchés des actions, hein, pas des marchés des taux. Et donc, on a effacé la hausse post-Covid. Et on est retourné sur le CAC, sur le Standard & Poor's.
Alors, vous allez encore plus loin, vous dites, même les marchés, c'est normal.
Je veux dire, la baisse de 20% des actions par rapport à un plus haut historique, c'est pas grand-chose. Vous voyez, vous me dites historiquement, est-ce qu'on a connu... Moi, là où je suis surpris, et où on dit déjà depuis quelques trimestres chez Moneta, on est étonné de l'ampleur des problèmes dont vous avez tous parlé, et de finalement la très bonne résistance du marché des actions dans son ensemble.
Et vous
c'est ça qui m'étonne.
Du coup, vous l'expliquez comment?
J'explique par peut-être une forme d'accoutumance à des drames. Ça veut dire, on est depuis 10 ans globalement dans une croissance des marchés. On a eu plein d'avertissements qui finalement étaient de faux avertissements. Vous vous souvenez, le Brexit, les marchés sont effondrés. Trump, les marchés sont effondrés. Crainte de ralentissement en Chine depuis maintenant au moins 2018, on a cette idée-là. Covid, les marchés sont effondrés. Et chaque fois, c'est reparti. Donc on a beaucoup d'acteurs.
C'est reparti plus fort.
C'est reparti plus fort au et niveau de la hausse du marché et plus
c'est
haut.
Vrai.
Et donc moi, il y a beaucoup d'acteurs qui sont finalement habitués à dire, il y a les banques centrales qui vont pouvoir. Aujourd'hui, on voit que les banques centrales, elles ne savent plus quoi faire. parce qu'elles jouent leur crédibilité, elles ont laissé partir l'inflation.
Elles l'ont perdu, leur... enfin, excusez-moi.
Alors, elles essaient d'arriver.
Déjà perdu parce que leur absence de réaction et leur retard à l'allumage est dramatique.
Alors elles veulent le rattraper. Hein. Le discours de Jackson Hole était quand même un discours extrêmement bien ciselé, bien construit, très court, sans échappatoire. Hein. Moi, je l'ai relu plusieurs fois. C'était vraiment un discours qui annonçait.
Il y a le programme. On a le programme des prochains mois.
Il faut ralentir la demande, il faut ralentir l'économie. Donc les banques centrales ne vont pas s'arrêter parce que l'économie va ralentir, elles vont s'arrêter quand elles auront atteint leur objectif de casser l'inflation.
Mais là, Romain, parce que vous rigoliez tout à l'heure quand on parlait des années 80. Là, si les banques centrales disent on monte l'inflation jusqu'à casser la demande et la croissance, je suis désolé, mais ça veut dire qu'il vous faut des taux d'intérêt réels qui soient au moins de 4-5%. Et si vous voulez des taux d'intérêt réels qui soient au moins de 4-5%, je n'ose pas prononcer les chiffres auxquels il faudrait amener les taux directeurs des banques centrales.
C'est ce que dit Léa, mais c'est pas ce que vous dites, Romain.
Moi, je me prononce pas sur les taux d'intérêt, mais je vois que l'environnement est un environnement aujourd'hui dangereux et qu'effectivement, il n'y a pas de sortie facile. Parce que soit la sortie, c'est dire on s'accommode de l'inflation et on tombe dans un environnement qui est un environnement qu'on...
Ça, c'est clairement non.
A priori, aujourd'hui, c'est non.
C'est non.
Hein? Et donc, on va vers un choc, et puis après, on verra comment c'est géré. Mais on est dans des acteurs qui sont des acteurs assez endettés, et donc c'est un environnement qui est effectivement délicat.
Allez, juste, on va parler marché tout à l'heure. Je ne veux pas dévoiler vos anticipations, mais ça veut dire que si vous considérez que finalement, malgré tous les chocs, les marchés ont peu baissé, ça veut dire que vous considérez qu'ils peuvent encore baisser.
Oui, il y a un risque important qui baisse encore.
Il y a un risque important qui baisse encore. Super. Alors, ça commence fort. Allez, on va passer tout de suite à la question de la semaine qui est liée à ce qu'on vient de dire. C'est jusqu'où Jusqu'où? Parce que finalement, on est en train de se rendre compte que c'est ça la question. Jusqu'où les taux d'intérêt à court terme et à long terme vont monter, et ensuite on se posera la question pour les entreprises. Vous nous avez déjà donné un début de réponse, vous, Anna. Vous dites, bon, voilà, aux États-Unis on a à peu près des targets. Vous venez d'entendre des risques de dérapage bien au-delà de ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que ça vous inquiète ou non?
Quand on regarde les drivers d'inflation, c'est très très important toujours de se rappeler les composantes, d'accord? Donc aujourd'hui, en zone euro, on est à 50% d'énergie et à 40% des chaînes de valeur, dont les problèmes d'offres. Les problèmes d'offres vont se régler par la récession, c'est évident, et déjà les indicateurs commencent à baisser. On n'est pas dans une période normale, mais on n'est plus du tout dans le pic, d'accord? Et donc, quand il n'y a plus de demande, et c'est ce qu'on est en train de vivre, et qu'il y a des surcapacités, ces problèmes-là vont commencer à se résorber. C'est sûr qu'il y aura de la rigidité. L'énergie, on est en train de la régler par de la régulation, on est en train de caper les prix, on est en train de soutenir partout en Europe comme on peut. Et donc, il nous reste la demande, qui est à peu près 15% de l'histoire. Et aux États-Unis, c'est 30-40%. Donc, aux États-Unis, c'est vrai qu'on a plus un problème de demande et d'une mini-surchauffe de l'économie qu'on peut régler quand même par des taux plus agressifs, mais pas en zone euro. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en tant que
banque centrale... J'aime beaucoup cette décomposition-là, parce que...
Ben, c'est très important, parce qu'en fait...
Parce que moi, je pensais qu'aux États-Unis, c'était beaucoup plus que 30% la demande.
Non, c'est à peu près 30%, parce que l'offre, elle est aussi à 40%, et puis le restant, l'énergie, parce que c'est moins problématique, ou les matières premières en général. Et les matières premières hors énergie, encore une fois, la récession les calme. Hein. Bien sûr, après, si on a encore des pénuries, si on a encore une escalade avec la Russie,
oui, évidemment,
il y a plein d'alertes. Mais c'est sûr que c'est important d'avoir ça en tête, parce que ça va donner un peu le ton aussi sur les mouvements des banques centrales. Et juste un dernier point, c'est qu'aujourd'hui, je pense que le plus gros problème des banques centrales, c'est aussi... Au-delà des salaires pour lesquels je suis d'accord, je pense que dans ce cycle-là, on ne va pas avoir 6% de croissance en moyenne en zone euro, mais plutôt 4%, parce qu'on arrive à la fin des négociations, mais plutôt les monnaies. Et donc, puisqu'en fait, on importe beaucoup d'inflation par cette inflation importée et par des monnaies qui sont trop faibles, ça peut devenir embêtant en 2023.
Un vrai sujet.
Un vrai sujet. Et donc, c'est un équilibre instable.
Emmanuel Le Chip, juste sur la question, après on revient sur les monnaies. Vous pensez que sur les taux d'intérêt, on voit à peu près là où on va atterrir? Vous n'avez pas peur d'un dérapage par le haut?
Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Après, une erreur est toujours possible. Et l'expérience montre que souvent, les catastrophes proviennent des mauvaises décisions des banques centrales. Oui. Là, ce qui est quand même clair, c'est que les anticipations d'inflation, elles vont se retourner très vite. Elles sont déjà en train de se retourner. Quand vous regardez...
Hier, on voit le chiffre de l'Allemagne, c'est 10,9%. Mais, c'est effrayant.
Ce qui compte, c'est les anticipations. Mmh. Et les anticipations, encore une fois, il y a deux sujets problématiques, il n'y en a que deux. C'est le gaz et l'électricité. Si vous regardez le reste, concrètement, vous voyez quoi? Vous voyez que la plupart des matières premières aujourd'hui sont stables depuis 3 mois, voire baissent. Le pétrole, je vous rappelle, on est à 90, on vient de 120.
On est
sur, les produits alimentaires, on sort quand même d'une succession de catastrophes et de malchances invraisemblables, à part l'Ukraine. Mais regardez tout sur tous les autres produits, le café, etc. Tout a été vraiment...
Jusqu'au jus d'orange avec la Floride sous les eaux.
La maladie du dragon.
Et l'ouragan.
Et donc, on peut penser qu'on va quand même avoir des récoltes un peu meilleures, etc. Le commerce mondial, vous voyez, quand vous voyez les prix du fret sont en train de chuter. Quand vous voyez l'indicateur qui est très intéressant, qui est l'indicateur de fluidité des chaînes de production mondiale, vous voyez qu'on est monté à un pic et qu'on en a redescendu à peu près la moitié. Donc ça, c'est en train de se fluidifier. Ça, c'est des anticipations à la baisse. Donc voilà.
Donc il y a le sujet du gaz. Vous n'êtes pas inquiet du dérapage?
Non, je pense que
sur les taux d'intérêt au-delà des niveaux qu'on
s'est fixés. Si les banques centrales se préoccupent surtout des anticipations d'inflation, ces anticipations ne vont pas pousser trop haut les feux.
Allez, on passe au chiffre de la semaine. Ce qui m'a beaucoup marqué, on est descendu sur l'euro jusqu'à quasiment 95. Bon, alors on a rebondi en fin de semaine. Vous parliez tout à l'heure, je vous ai interrompu, Anna. C'était volontaire, parce que je ne voulais pas dévoiler le sujet d'après, mais vous dites, attention, il y a un autre sujet pour les banques centrales, ce n'est pas l'inflation, c'est les monnaies. Vous pouvez nous expliquer?
C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on regarde économiquement ce qu'une dépréciation d'une monnaie peut apporter, surtout dans un scénario où la croissance mondiale sera au plus faible l'année prochaine, comme en 2008, que les marchés émergents font face à leurs propres problèmes, croissance qui est faible, Covid, la Chine qui ne démarre pas, les États-Unis qui sont aussi en récession, c'est sûr que ces niveaux de taux vont poser des problèmes. Et donc, en fait, quand on sait qu'économiquement, une économie comme la zone euro, comme le Royaume-Uni, comme les États-Unis ne sont pas du tout compétitifs avec une monnaie faible, mais plutôt importent de l'inflation, la question c'est de savoir combien on va importer, bien sûr. Et donc là, quand on regarde encore une fois des estimations passées, des cycles passés de dépréciation, au Royaume-Uni, par exemple, on a déjà eu ça en 2016, donc on était à peu près à 3 points d'inflation supplémentaire sur un an.
C'est énorme.
Pour 10% de dépréciation de la monnaie. Et en zone euro, on est à peu près à 1,5. Donc on est moins parce qu'il y a beaucoup plus de commerce intra-régional. Mais il y a beaucoup de upside qui est dû à ça. Après, effectivement, ça dépend de la facture à l'import.
Ah, évidemment.
Vous allez me dire, parce qu'aujourd'hui...
Non, j'allais pas le dire, mais c'est pas...
Non, mais en tout cas, les balances courantes aujourd'hui sont hyper déficitaires à cause du poids en fait de ces factures à l'import, qu'elles soient alimentaires, énergétiques. Donc si on arrive à le contrôler, si on arrive effectivement à garder des prix des matières premières en baisse parce que le cycle est défavorable, ça peut aussi effectivement l'année prochaine se réduire. Mais on a quand même les effets de cette année parce que l'euro il s'est déprécié à peu près de 12-15% cette année et donc va se voir.
Ça va être à 1,5% si
je. Et c'est là où les anticipations d'entreprises en fait parce que elles ont évidemment subi la hausse des coûts des entrants et donc à la fin de année, elles vont essayer quand même encore de remettre un petit peu plus de hausse de leur prix de vente.
Emmanuel Le Chip, quand je vous posais la question il y a quelques mois, qu'est-ce qui pourrait faire perdre aux banques leur super pouvoir? Quelle serait la kryptonite des banques centrales? Vous me disiez le cours de change, on y est là?
Non, on n'y est pas encore. Quand je disais le cours de change, parce que on voit bien que la limite à la relance monétaire, c'est quand les investisseurs finalement finissent par perdre confiance dans votre monnaie. Là,
c'est le cas en Angleterre, quand même, non?
Alors là, c'est le cas en Angleterre. Alors là, l'Angleterre, effectivement, est dans une situation.
C'est le cas au Japon aussi, quand même.
Non, mais l'Angleterre est clairement dans une situation. C'est pas la même chose au Japon. L'Angleterre est clairement dans la situation économique la pire qu'il ait connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on n'est même pas, on n'est même pas comme à la fin des années 70. Parce que à la fin des années 70.
Encore un sujet sur lequel on ne va pas être d'accord.
Non, mais à la fin des années 70, vous aviez quand même des leviers d'action. Vous étiez capable d'identifier les points de friction dans cette économie britannique. Et vous aviez quelqu'un qui arrivait avec une politique qui a remis de la fluidité et de la nervosité dans tout ça. Là, aujourd'hui, quels sont les instruments de politique économique qui peuvent permettre au Royaume-Uni de sortir? À l'époque, on savait que baisser la dépense publique, ça allait produire des effets positifs, que ça permettrait de baisser les impôts, etc., etc. Là, quels instruments?
Ça fait quand même un peu comme les États-Unis. La centième fois qu'on enterre la Grande-Bretagne, c'est-à-dire le nombre de fois sur les plateaux français où on enterre l'Angleterre.
Enterrer, Marc, ça ne veut pas dire grand-chose. Enterrer, c'est est-ce que le pays est en train de traverser la plus grave crise économique de l'après-guerre? Moi, je pense que oui. Voilà. Et où vous vous tourniez, regardez les pénuries de main-d'œuvre, regardez tout ça.
En une seconde, voilà. Vous, Anna, vous partagez cette analyse très pessimiste sur la Grande-Bretagne. Juste une seconde.
Une seconde.
Ouais.
On a déjà vu des chiffres aussi mauvais en Grande-Bretagne depuis Brexit, en gros. Mais je pense que c'est une matérialisation du choc Brexit qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. C'est un combo, si vous voulez, le cas d'école qu'il ne faut pas faire entre la perte d'attractivité après le Brexit, les pénuries de main-d'œuvre qui deviennent structurelles. Et puis faire encore la moitié de Covid de stimulus sans vraiment savoir comment on finance.
Et c'est la fin de cette première partie qui, comme vous l'avez vu, est extrêmement réjouissante. On se retrouve en deuxième partie de l'émission et Romain Burnand va vous nous annoncer un nouveau crack.
BFM Business. C'est votre argent. Marc Fiorentino.
Où c'était votre argent compte tenu de ce qui s'est passé pendant le mois de septembre? Deuxième partie de l'émission. J'espère que vous avez eu le moral reboosté par la première partie. Si vous aviez le moral reboosté, la deuxième partie va vous achever. Alors on a d'un côté, c'est assez amusant, d'un côté j'ai les économistes qui sont pas très inquiets. Hein. Emmanuel Le Chypre et Anna Boata, merci d'être là.
Mais nous on est pauvres, on n'a pas d'économie.
Ouais, c'est ça.
Et on n'a pas de placement, donc on est serein.
Et de l'autre côté, j'ai évidemment Romain Burnand et Léa de DNCA qui eux sont assez inquiets. Justement, je vais vous poser des questions sur les marchés. Alors les marchés, on y va. Waouh, quel mois de septembre. Il n'y a qu'une bonne nouvelle, c'est qu'il se termine. Hein. Parce que là, il fallait qu'il se termine. Alors je vous rappelle qu'historiquement, hein, dans l'histoire des marchés boursiers, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas le mois d'octobre qui est le plus mauvais mois de l'année, c'est le mois de septembre. En octobre, il y a des cracks, mais en septembre, c'est la plus mauvaise performance. Bon, ben là, on y est. Hein. Allez, je vous fais un prix commun, on est à 8%. Entre 8%, entre 8 et 10% de baisse à peu près partout. Et depuis le début de l'année, ben, on est entre 20 et 31% de baisse sur le Nasdaq, 20% sur le CAC, 31% sur le Nasdaq. C'est quand même... Alors, j'entends hein, ce que disait Romain, et je vais lui passer la parole tout de suite, qui me disait, bah oui, non, mais finalement, par rapport à tout ce qui se passe, c'est une baisse qui est quand même contenue. Oui, c'est vrai, c'est une baisse qui est contenue, mais c'est une baisse qui est quand même brutale. 31% sur le Nasdaq, qui a été le marché phare des années précédentes. Alors, vous allez me dire, c'est parce que c'était le marché phare des années précédentes qui baisse, et donc que cette baisse, j'entends. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on est à ce point que les marchés, les investisseurs appellent, ou les gérants, la capitulation, c'est-à-dire le moment où on a paniqué, et qui est le moment du plus bas, finalement? Est-ce que c'est en septembre où, tout à l'heure, vous sembliez nous dire, non, attention, moi, je crois qu'il y a encore des risques.
Romain Burnand. Il y a forcément des risques. Hein. Il y a toujours des risques sur tous les marchés financiers depuis toujours. Et ce n'est pas parce qu'il y a des risques qu'il faut payer. Mais est-ce qu'on n'est certainement pas dans une capitulation? Une capitulation, c'est que les gens abandonnent tout espoir. Donc, il y a des vendeurs forcés, il y a des faillites, il y a des vendeurs forcés. Et là, le marché capitule. Et là, le...
On a des capitulations sur des segments. C'est-à-dire ce qu'on appelle cette tech un peu pourrie.
Oui, bien sûr. Sur la bulle de tech, et puis on dévalorise.
Dans la tech, la bonne tech et la mauvaise, comme le cholestérol.
Et
hein.
Puis, on les reconnaît plus facilement une fois que les cours de la mauvaise ont baissé. Parce que bon, on peut les... Mais les, ben, on a... Oui, il n'y a pas encore eu de... Mais dans toutes les phases de cycle financier, il y a parfois des choses qui tout d'un coup accélèrent. Vous avez vu la faillite de LTCM, qui était un énorme hedge fund, et des premiers hedge funds dans les années 90. Vous avez eu pendant la bulle Internet, les problèmes de maquillage des comptes d'énormes sociétés qui étaient sous des vedettes comme Enron et compagnie.
Donc là, vous dites, on n'a pas eu notre Enron, on n'a pas eu notre Liman, on n'a pas eu notre Evergrande.
J'entends Emmanuel, il dit oui, il y a des chocs, et puis chaque fois on réagit aux chocs qui sont les mêmes choc et compagnie, il peut y avoir d'autres chocs. Et c'est vrai, dans une économie endettée, on ne sait pas forcément où sont les risques. On ne sait pas si les risques sont dans des fonds de dette, sont dans des hedge funds, sont dans des particuliers qui ont fait jouer l'effet de levier, encouragés par leur banque pour avoir un peu plus de commission, en disant, tu voyez, quand on lit les journaux financiers comme le Financial Times, on s'aperçoit qu'à Londres, les gens qui achètent des immeubles ou des habitations à 50 millions de livres, ils le financent essentiellement par de la dette, parce qu'ils mettent leur actif en dépôt, parce qu'ils sont tellement habitués à ce que ça monte et à ce que tout va bien que finalement le levier c'est ce qui a fait rendu des gens riches, et les gens ont du mal à renoncer à ce levier. Donc ils vont être parfois, on peut être dans des situations où à cause de la hausse des taux d'intérêt, à cause de l'insuffisance de prêteurs, hein, des gens qui sont très sains. Les grandes entreprises comme LVMH, comme L'Oréal n'auront aucun problème pour s'endetter s'ils le voulaient, parce qu'ils n'ont pas de dette. Mais les sociétés qui sont déjà très endettées parce qu'elles ont fait de la croissance externe un peu éventuellement à contre-cycle peuvent avoir plus de difficultés. Et on voit que les gens qui ne sont pas investment grade payent aujourd'hui 6,5% de plus que les taux de gens qui sont investment grade. Donc on est dans un climat où effectivement les taux se resserrent et donc tout risque supplémentaire.
Jeu de mots.
Involontaire, tout risque supplémentaire se. Et c'est vrai que.
Pas le risque. Attendez, excusez-moi, mais quand on vous écoute, le risque que vous soulignez, c'est pas plusieurs risques, c'est le risque de surendettement.
C'est le risque de levier. Dans toutes les crises, il y a toujours du surendettement.
D'accord. La perception que j'ai de l'extérieur, mais qui est probablement fausse, c'est que la situation des entreprises, à part des secteurs vraiment particuliers qui sont financés avec des levées de fonds ou du surendettement est relativement saine, je me trompe?
Oui, non, vous ne trompez pas. La plupart des grandes entreprises européennes sont bien financées.
Et même internationales, quand on regarde les gros de la tech américaine, ils sont tous cash rich.
Oui. C'est plus du côté investisseur éventuellement à trouver, mais chaque fois, on ne sait pas, c'est très opaque. C'est autant vous connaissez le bilan de L'Oréal. Vous connaissez aussi le bilan de sociétés plus endettées. Hein. Il y en a des sociétés plus endettées chez nous qui ont effectivement beaucoup chuté.
Par exemple,
Les maisons de retraite, par exemple. Donc, il y a plein de choses qui sont ajoutées.
Ça, c'est de la capitulation.
Sur la maison de retraite.
Pour le coup.
Mais si elles n'avaient pas été endettées à la base, elles n'auraient pas baissé autant. Hein, ou des acteurs qui ont fait de la croissance externe payés essentiellement par la dette comme Veolia est une société assez endettée.
Hein,
je ne dis pas qu'elle est. Mais que son cours en prenne compte aujourd'hui, c'est normal. Hein, ça fait partie.
Donc là, vous dites, en fait, sur les entreprises, il y a une certaine transparence. Il y a une partie des entreprises.
Sur les grosses,
il y a une certaine transparence.
C'est pas la même chanson.
Non, mid-cap aussi. Tout ce qui est coté, on voit bien.
Mais vous dites,
globalement, ce qu'on ne sait pas, c'est d'abord ce qui se passe sur le non-coté. Puis ce qu'on ne sait pas non plus, c'est ce qui se passe du côté des fonds. Puisqu'il y a eu beaucoup de hedge funds qui ont joué
ou des gens fortunés qui peuvent être endettés à titre personnel, se gager sur des valorisations qui sont. Les valorisations du private equity, par exemple, n'ont quasiment pas baissé.
Donc c'est amusant parce que en fait, je fais le parallèle avec les subprimes où là, c'était le surendettement des couches sociales les plus défavorisées. Là, vous dites, c'est peut-être le surendettement des riches qui va nous faire sauter la planète.
Il y a une bonne habitude.
Oui.
Le private equity.
Où vont les marchés,
Un point juste sur le private equity, c'est intéressant parce que c'est un peu vos licornes, vos chimères licornes, on ne sait pas trop comment les appeler parce qu'effectivement là, il va y avoir des véritables sujets.
Alors Grégoire Santil était là la semaine dernière, le patron de NextEdge. Je lui ai dit, est-ce que vous avez une action à me conseiller puisque à la fin, je demande au gérant. Et il me dit, non, pas d'action cotée, je ne fais plus que du private equity. Parce qu'il dit il y a moins de danger.
Je serais moins.
Allez-y, répondez. Si c'est le moment où vous étiez en accusation.
Non, d'abord, pour une simple raison, il n'y a pas de valorisation quotidienne. Donc le choc, il arrive quand effectivement les problèmes sont d'un point de vue économique réellement arrivés. Mais tant qu'on ne les voit pas, malheureusement, ça ne se price pas. Et moi, je suis très, très, très dubitatif sur la dette. Je voudrais juste revenir sur les entreprises. Effectivement, il y a trois catégories d'entreprises et où vont les marchés, ça va me permettre d'y répondre. Il y a les entreprises qui ne sont pas endettées. Et effectivement, il y en a beaucoup en fait. En réalité, c'est ce qui fait que le marché de ce point de vue-là peut se tenir. Il y a celles qui se sont endettées il y a 6 mois, 1 an, intelligemment d'ailleurs. Ouais. Et celles-ci, elles sont très intéressantes. Et puis il y a celles qui
Qu'elles se sont endettées à des taux fixes, à des bons niveaux.
Exactement. Okay. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait. Ouais. Beaucoup qui l'ont fait. Et puis, enfin, celles qui malheureusement ont des business où elles doivent s'endetter. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la partie maintenant réaction sur les BPA, les bénéfices par action. Parce qu'en fait, on a eu une vague de hausse des tarifs dans à peu près tous les secteurs. Les hausses de prix ont été passées partout sans difficulté. On a craint sur les marges. Finalement, les marges se sont tenues. Donc là, aujourd'hui, on arrive à un stade où c'est la demande qui va être pénalisée. Et vous disiez, les entreprises vont bien. Elles nous l'ont toutes dit, même encore au premier semestre, les résultats étaient plutôt bons. Et là, entre le premier semestre et les résultats qui vont commencer à arriver, le discours commence à se
faire. J'ai pas dit qu'elles allaient bien. J'ai dit que leur situation financière était plus saine que celle qu'on a pu connaître dans les autres crises. Mais je suis d'accord avec vous. J'ai aussi des contacts avec les entrepreneurs. Ça fait 2 mois qu'ils me disent que
ça
s'est arrêté, sauf certains secteurs comme les ESS. Transformation digitale où là ça continue
exactement
à cartonner.
Et alors juste peut-être là-dessus pour terminer,
bien sûr.
Qu'est-ce qu'il faut regarder dans ces cas-là? C'est finalement quel est le niveau de BPA qu'on devrait atteindre pour pricer
bénéfice par action BPA.
Voilà, exactement, pour pricer auprès des entreprises une récession qu'elles vont prendre de plein fouet. Et il y a encore quasiment 15% de baisse.
D'accord, super. La situation
Bénéfices par action.
Oui.
Si c'est ça, c'est pas grand-chose.
Sauf que les anticipations, aujourd'hui, malheureusement, font que vous aurez à peu près la.
Alors attendez,
la même
allons
chose
jusqu'au bout. 15% de bénéfices par action, de baisse des bénéfices par action, c'est combien de baisse sur les marchés, Romain Burnand?
C'est très compliqué à dire parce que les sociétés qui ne risquent pas, sur lesquelles il n'y a pas d'anticipation de baisse de résultats, sont des sociétés qui sont encore extrêmement chères. Mmh. Vous voyez, okay. des sociétés très, très bien gérées, sans dette, comme L'Oréal, elles se payent à 30 fois les résultats de l'année.
D'accord.
Et donc, il faudrait même pas, il n'y a pas besoin de baisse de résultats pour qu'elles baissent, il y aurait besoin d'un ralentissement de la croissance des résultats. Vous voyez, pareil pour les acteurs du luxe, c'est pareil pour des gens comme Dassault Systèmes qui sont des boîtes bien gérées, récurrentes. Donc là, vous avez un marché à deux mondes. Donc il y a les sociétés qui sont censées échapper à la crise, puis ceux qui sont dedans, comme les banques, les automobiles. Leurs résultats sont très bons actuellement, mais on sait par expérience que ce sont des secteurs cycliques, comme la construction. Et donc là, les prix sont vraiment à la ramasse totale. Donc on n'a jamais vu un écart de valorisation aussi élevé entre ces deux familles d'acteurs. Et donc c'est vrai, quand vous parlez, s'il y a 15% de baisse de résultats sur les banques européennes, c'est tout du bonheur. Parce que leur cours de bourse, il attend pratiquement 30-40% de baisse des résultats, si vous voulez, implicitement, hein, pour revenir à un niveau qui soit un niveau normal. Si on a 15% de baisse des résultats sur LVMH, c'est l'affolement dans les gens qui ont cette valeur, parce qu'elle est aujourd'hui, c'est considéré comme une valeur refuge.
Donc vous nous dites d'en sortir ?
Je dis, c'est un risque que je ne prends pas.
C'est un risque que vous prenez. Vous n'avez pas de LVMH, de L'Oréal,
de
choses. D'accord, c'est important quand même ce que vous dites. Parce que
je me trompe souvent.
Non, mais comme tout le monde. Hein. Anna, la situation et l'endettement des entreprises, ça c'est un sujet auquel je n'avais pas pensé. Mais voilà une nouvelle angoisse pour ce week-end.
On a connu des nouveaux records cette année. Et pour certains, oui, on a anticipé la hausse des taux. Pour d'autres, on a juste financé le cycle d'exploitation qui a coûté extrêmement cher. Quand on regarde les besoins de fonds de roulement entre les stocks qu'on a refait comme des malades à des prix du jamais vu, entre l'inflation qui a pesé sur les délais de paiement parce qu'ils se sont raccourcis, parce qu'en période d'inflation on demande à être payé plus vite pour pouvoir faire autre chose avec cet argent, et donc on a eu quand même ces besoins de liquidité. Après, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de cash en Europe, on a 33% de plus qu'en 2019, aux États-Unis 60% de plus.
Des entreprises, vous dites, hein.
Des entreprises, mais c'est très centralisé sur des grandes entreprises, donc le risque est avec les PME. Et aujourd'hui, chez Allianz Street, ce qu'on voit, c'est que la défaillance et les sinistres arrivent des PME. Donc, c'est une question de fréquence, du nombre de ces petites entreprises qui sont peut-être moins soutenues par la demande, par le cash.
Et ça, on en a parlé un peu pendant la crise Covid. On parlait des entreprises ici même, on parlait des entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qu'on a aidé à survivre alors qu'elles auraient dû tomber au moment du Covid. Et là, elles sont en train de tomber. Bon, finalement, on rattrape le retard. Ouais. Je vous rappelle quand même qu'en 2021, c'était le nombre record de défaillances d'entreprises à la baisse, c'est-à-dire qu'on n'en avait jamais eu aussi peu. Et c'était totalement artificiel, en fait. On les a soutenus artificiellement.
Mais on continue à soutenir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans ce triple choc. Choc énergétique, choc de taux quand même, ou de financement, et puis choc de salaire. Et donc, effectivement, on a ces chocs-là qui vont faire que la part de ces entreprises, est-ce qu'on les appelle zombies ou fragiles, mais en tout cas qui vont faire défaut dans les deux années à venir, augmente. Après, en fonction des États, on met plus ou moins d'argent pour en fait tenir ces défaillances sous contrôle. Et si on prend le cas de la France, on aide aussi les entreprises des PME parce que bon, la plupart des entreprises ont 3% de leur chiffre d'affaires dans la facture énergétique, et donc il suffit d'afficher un mois de perte pour être compensé.
Mais là, le choc énergétique, c'est quand même stupéfiant. Nous, on voit défiler les patrons avec leur nouvelle proposition de contrat. C'est des chiffres hallucinants. C'est-à-dire que c'est des fois 10.
Ouais.
Sur le gaz, par exemple, c'est...
Et Emmanuel Macron dit, ne vous précipitez pas pour signer, mais on se demande ce qu'ils peuvent faire d'autre. Allez, on va se poser la question quand même d'argent, j'ai envie de dire, du mois, de la semaine. Et là, je me retourne vers les gérants. Alors, j'ai deux questions, finalement. Je vais changer un peu ce que j'avais prévu par rapport à ce que vous m'avez dit. Bah, si j'ai un portefeuille d'actions, qu'est-ce que je fais? Parce que si je vous écoute, j'ai envie de tout vendre. Et si j'ai de l'argent, qu'est-ce que j'en fais? Robin Burdon.
Alors, bon, je gère des actions.
C'est pas
donc, j'ai que des actions. Oui, c'est pas compliqué. Ben, moi, ce que j'aime bien des actions, c'est les actions. Alors, je me trompe peut-être, c'est les actions qui sont aujourd'hui pas aimées du tout par le marché. Donc, les actions qui sont extrêmement dépréciées, mais qui ont des structures financières solides. Donc, par exemple, on a Stellantis, hein, qui est un constructeur automobile bien connu. Son cours de bourse représente juste 2 années et demie de résultats actuels. Et alors, c'est un résultat qui est record, qui va très vraisemblablement baisser en 2023, parce que ils ont bénéficié du fait qu'il y avait des pénuries, donc du coup il y a une forte demande automobile, du coup ils ont vendu des voitures de le plus haut de gamme qu'ils sont dépêchés de produire et compagnie. Mais ils ont aussi 40% de leur capitalisation boursière, donc de leur valeur en bourse, qui est couverte par de la trésorerie.
D'accord. Donc vous dites, je continue à rester en bourse.
Voilà, sur ce genre de valeur, je pense que c'est un risque qui vaut la peine d'être pris. Puis après, bien sûr, on a bien sûr tout un. Donc, j'aurais plutôt sur les valeurs décotées que sur les valeurs stars encore aujourd'hui. Même si les valeurs stars encore aujourd'hui ont baissé,
c'est le début.
Elles ont baissé parce que les taux ont monté, mais il n'y a pas encore eu d'accidence de croissance ou sur le résultat.
C'est passionnant. Donc, voilà. Parce que vous êtes quand même à contre-courant.
Léa, j'allais le dire. Il y en aura pour tout le monde. Moi, je suis exactement l'opposé. Alors déjà, qu'est-ce que je fais sur un portefeuille action? Pour l'instant, je ne vends pas. Il y a franchement eu déjà des gros re-ratings, comme on dit. Les multiples se sont contractés. Ce n'est pas la peine de les vendre maintenant. Par contre, je ne rachète pas tout de suite. Et en revanche, je ne me positionne pas sur ces entreprises. Je vais plutôt sur les entreprises de qualité, donc un peu plus chères que Stellantis, même parfois beaucoup plus chères, qui ont quand même beaucoup souffert pour certaines d'entre elles, sont à moins 60,
exemple.
Et qui finalement présentent des points d'entrée sur long terme intéressants. Donc je pense à Lonza, toute la médecine par exemple, qui a été délaissée cette année et qui est sur des niveaux de valorisation qui sont ceux de 2018 pour certaines, c'est extrêmement intéressant. La logistique, on parle tout le temps, idée logistique, parce que c'est un groupe qui pour moi souffre beaucoup trop parce que c'est une petite entreprise, et des pure players comme Rational, parce que quand on va sur un pure player avec un mono-business et surtout avec une chaîne de valeur intégrée, moi c'est ce que je regarde, ça m'intéresse l'automobile, mais moi je suis très inquiète sur la manière dont ils pourront se fournir de tout ce dont ils ont besoin pour leur plan stratégique.
Bon, on va organiser une émission avec vous deux pour faire un débat sur le sujet, parce que c'est passionnant, on a envie de vous écouter les deux pendant quelques heures. Quel est le mot de la semaine pour vous, Emmanuel?
Je ne sais.
Il a oublié. Anna, quel est le mot de la semaine pour vous?
Le retour du quoi qu'il en coûte, hein, même si on ne le dit pas explicitement.
Mais quelle arnaque!
Des volatiles,
quelle arnaque!
Ce serait plus le vert, le mot de la semaine.
Ouais, col roulé.
Voilà, col roulé.
Anna.
Moi, c'est le quoi qu'il en coûte, c'est ça.
C'est comment faire du quoi qu'il en coûte en disant qu'on n'en fait plus. C'est quand même la grande arnaque de Bruno Le Maire. Il a réussi un coup de maître en termes de communication.
Tout est dans la communication.
Et les gens l'ont pris comme argent comptant, j'ai envie de dire.
Après, voilà, en France, on n'est pas très aux eaux claires comment on arrive au moins 0,2% de la balance structurelle. Alors qu'au Royaume-Uni, on a dit on va faire de la nouvelle dette et voilà. Mais bon, finalement, il y a la Banque Centrale qui...
Très bonne communication. Romain Burnand, le mot de la semaine?
Moi, j'avais choisi fin du déni.
Oui.
Voilà. Parce qu'on était un peu dans un nuage cet été avec des marchés qui avaient bien rebondi et on se demandait pourquoi, parce qu'on attendait que les taux finalement rebaissent et puis finalement, c'est pas le cas et on est face à une réalité de hausse des prix, de hausse des taux, de retournement.
J'ai même envie de dire fin du déni, mais c'est même pas de cet été, des cinq dernières années. C'est-à-dire qu'on est dans le déni quand même depuis plusieurs années. Franchement, moi, ça me frappait pendant...
Les marchés ont été stressés quand même. Ces cinq dernières années, il y a eu des coups de stress avec des baisses de moins 20, moins 30.
Vous l'avez dit, mais très rapide.
Oui,
très rapide. Trump, ça a duré une semaine.
Non,
le Brexit, ça a duré une semaine.
Mais parce qu'avec les taux zéro, on était en apesanteur totale.
Ben, c'est pour ça.
Là, on retrouve les lois de la gravité. Bon, ça fait un peu plus mal quand on tombe.
Léa, le mot de la semaine pour vous?
C'est stockage, parce qu'en fait, moi, je prends un peu de recul là sur ce qui est en train de se passer avec cette crise énergétique. Je suis assez inquiète, en fait, sur le tournant qu'on est en train de prendre en Europe, de se désengager de la dépendance du gaz russe pour s'engager vers les énergies renouvelables. Et pourtant, c'est quand même le domaine que je regarde.
Bah, quand même.
Et donc, on va être tous dépendants de l'Asie à ce rythme-là. Et donc, je voulais juste dire une chose qui est très intéressante, c'est que le stockage, pourquoi ça m'inquiète? Parce qu'on va faire des énergies renouvelables, on a besoin de batteries, donc on a besoin des terres rares asiatiques. Et le stockage, en fait, c'est mécanique depuis toujours, c'est des barrages hydrauliques qu'on n'a plus le droit de faire en Europe parce qu'il y a des lobbies qui s'y opposent et que la Chine a lancé le plus grand barrage hydraulique de tous les temps pour avoir une capacité de stockage d'énergie qui représente une fois la consommation annuelle des Chinois. Donc je trouve qu'on est... C'est dommage.
On est dans le déni aussi.
Ouais.
Allez, on passe au top... Je ne sais pas si on doit l'appeler le top 3, le flop 3, je ne sais plus comment dire. Alors, vous allez voir les trois meilleures performances. Je crois que ce n'est jamais arrivé, évidemment, de l'histoire de C'est votre argent. Les trois meilleures performances sont inférieures à 10%. Les trois meilleures performances des gérants, les trois meilleurs gérants. Donc, Pierre Chang fait moins 12,2. Romain Burnand, qui est en deuxième position, fait moins 14,4. Frédéric Rosier fait moins 14,5. Les performances vont jusqu'à moins 35, hein, c'est logique. Il y a des gens qui ont privilégié notamment les valeurs tech américaines qui ont subi une casse phénoménale. Romain, juste un mot, c'est quand même... Oui, vous avez raison, vous disiez tout à l'heure, finalement, ça n'a pas tellement baissé. J'ai envie de vous dire quand même, quand les trois meilleurs géants dont vous faites partie, les portefeuilles moyens qui ne sont pas vos portefeuilles pour vos clients, c'est des portefeuilles un peu fictifs, qui sont faits de façon un peu compliquée, hein, vous ne venez pas toutes les semaines, vous ne pouvez pas réajuster, mais quand même, ça veut dire quelque chose, c'est quand même un vrai crack, non? Vous dites non?
Moins 14%, combien on a gagné l'an passé? Oui,
c'est ça, vous dites.
C'est pas grand-chose, vous vous retrouvez comme... On a eu des marchés qui ont été très volatiles ces 5 dernières années. Hein.
On a vous dites qu'il faut relativiser, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de regarder ça, je devrais plutôt faire une performance sur les 3 dernières années.
C'est par rapport à quand? C'est janvier, d'accord.
C'est hier tout
sur les 3 dernières années, vous auriez les gens n'auraient pas perdu d'argent.
Donc
sur les indices, les gens n'ont pas perdu d'argent.
Allez, on regarde votre portefeuille, Romain, si vous le voulez bien. Vous me dites si on garde ou on vend. Vous avez du Alten.
Et on garde.
Vous avez de la BNP.
On garde.
Vous savez, tiens, quelle surprise. Vous avez du Stellantis.
On garde.
On garde et on en rachète même, si on vous écoute.
Moi, j'en ai déjà.
Non, mais je veux dire, pour les gens qui n'en ont pas. On a du Bolloré.
Bolloré, je garde.
On a du Vivendi.
Je garde.
Et bravo, on a du Boscali, je crois qu'il y a une offre.
Il y a une OPA.
Bon, alors, il faut dire quand même qu'il nous a conseillé le 28 janvier, Boscalis, et il y a eu une OPA. Bravo.
Voilà. C'est un secteur qui était méconnu, et voilà, mais il est sorti, et donc je remplace Boscalis par Publicis.
Allez-y. Alors là, grosse surprise. Il faudrait une musique, parce que alors là, je ne sais pas aller la chercher.
Pas de dette, bon cash flow. Et puis, quand même, on parlait de la baisse de l'euro par rapport au dollar. 60% de son résultat en zone dollar.
Okay. Mais alors, attendez, là, je vous arrête tout de suite, parce que. On parle de la chute du marché de la publicité, même digitale, du fait de la chute de l'e-commerce, du fait de toutes ces entreprises qui ont levé énormément de pognon dans la tech les dernières années, toutes ces start-up dont tout l'argent est passé non pas en IT pour créer des applis, mais en communication. On se dit, le secteur de la communication, c'est le premier qui va souffrir, non?
Voilà, c'est un secteur qui a déjà souffert beaucoup, avec la désintermédiation, Et aujourd'hui, on a un titre qui a un price earning de 8. Hein, donc, il y a 8 années de résultats, une structure financière très solide, des marges assez élevées à 15%. Et on voit historiquement, dans les périodes de, notamment en 2009, ce genre de métier, le chiffre d'affaires a baissé, la marge a baissé, mais le résultat est très loin de s'être effondré. Donc, aujourd'hui, à 8, si on considère que c'est 12 un niveau normal pour ce genre, on y est déjà.
Donc, ça ne vous fait pas peur, la baisse éventuelle qui pourrait y avoir?
Oui, parce que c'est une société qui est assez, très solide. Elle est très, 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 très bien répartie géographiquement. C'est une cyclique. J'assume le fait que peut-être elle va avoir des périodes plus difficiles. Mais je pense qu'au cours actuel, c'est une valeur qui a un bon risque reward.
Je vous ai coupé tout à
l'heure. C'est un bon risque à prendre.
C'est mon habitude d'interrompre, on me le reproche d'ailleurs souvent. Vous avez parlé de Stellantis, vous aviez d'autres noms à nous donner dans ces valeurs délaissées?
La plupart,
c'est celle que vous avez en portefeuille.
Les banques sont extrêmement délaissées aujourd'hui.
D'accord.
Vous voyez, une banque comme la BNP, elle est à price earning de 6. Alors, même si son résultat a des chances de baisser par rapport aux attentes du consensus, ça fera 7-8. Mais elle a une structure financière très solide. Alors, je ne veux pas
détromper,
mais elle a un bon track record de gestion des risques de crédit.
Donc, ça fait partie des valeurs délaissées dont vous parliez tout à l'heure. Léa, je vous donne votre portefeuille, vous me dites ce qu'on fait. On a du Plastic Omnium.
On garde.
On a du Essity, on a du Dassault System, on a du Sika, on a du Tulle, on a du Nibé. On a du ID Logistique, vous en avez parlé tout à l'heure.
Tout à fait.
On a du Novo Nordisk au Danemark. Ouais. Et on a du Inwido. On garde tout ça, qu'est-ce qu'on achète?
Alors, Essity, on allège bien même.
D'accord, on peut la vendre,
effectivement. On va également
Essity,
vendre.
Essity.
Oui, parce que comme on fait des portefeuilles, effectivement, un peu hybrides, avec vous, Novo Nordisk, on enlève.
OK.
Tout le reste, on garde.
Qu'est-ce qu'on achète?
On achète Rational AG. On achète Lonza pour mettre
en place. Rational AG, donc c'est une boîte allemande.
Allemande, voilà. Exactement. Ce sera d'ailleurs les seuls.
Comme je suis fort.
Des cuisines de luxe. Ouais.
Et qu'est-ce qu'ils font pour
non,
vous?
Non, cuisine collective.
Collective, on va mettre
c'est
luxe,
pas pour
le top, non?
Non, ils sont vraiment sur tous les segments.
C'est plutôt pour Emmanuel, ça, des cuisines collectives.
C'est effectivement des cuisines.
Voilà, cuisine collective de luxe me convient bien.
Il y a les deux. Ils adressent les grands restaurants étoilés et aussi les grandes cuisines qu'on peut avoir pour les restaurations collectives partout dans le monde.
Et la thèse d'investissement là-dessus?
Alors c'est simple, en fait, ils font de l'efficacité énergétique sur leur deux fours. Ils ont deux produits. Déjà, moi j'aime bien. Il y a deux produits. C'est une entreprise familiale. C'est très simple à comprendre. C'est extrêmement bien géré. Ils produisent en Allemagne et donc ces deux produits ont la capacité de consommer beaucoup moins d'énergie que les autres fours. Par les temps qui courent, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'éviter le gaspillage alimentaire et de faire du gain en temps homme, en fait, dans les cuisines collectives. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont sur le marché asiatique depuis quelques années et ils connaissent un très franc succès pour ça.
Vous en avez?
J'en ai pas, mais je vais regarder avec attention.
Lonza?
C'est quand même des niveaux de valorisation qui sont
qui montrent que c'est bien revenu, mais
on est quand même froid 30-40
points. Justement, elle a publié il y a deux jours, elle a fait plus 16 précisément.
C'est pas une valeur délaissée. Lonza.
Non. Lonza, et d'ailleurs, j'aurais bien voulu venir il y a deux jours. Bon. Lonza, on peut la rentrer deux jours avant ou pas?
Oui, non, allez-y, allez-y, Lonza.
On se fait. Donc Lonza, c'est dans la chaîne de valeur des équipementiers médicaux. Évidemment, ils sont dans tout le process de fabrication, notamment des molécules. Ils accompagnent les grandes pharma. C'est un sujet de long terme. C'est évidemment un point d'entrée parce qu'elle a beaucoup souffert. C'est principalement pour cette raison. Voilà. Et idée logistique, qui était ma troisième idée, mais qu'on garde.
Bah, merci à tous. Franchement, c'était passionnant. On a besoin d'invités comme vous pour essayer d'y voir plus clair. Et je trouve qu'on y voit un tout petit peu plus clair. J'ai pas dit qu'on avait retrouvé le moral. Pas du tout, mais on y voit.
J'ai l'impression qu'on a fait deux heures d'émission.
Hein. Ah ouais, moi aussi. Moi, c'était intense. Je vais aller me reposer. Je vais aller me coucher tout de suite. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont on vient de me dire qu'elle serait exceptionnelle. En attendant, n'oubliez pas de nous écouter en podcast et en replay sur RMC BFM Play. Les podcasts cartonnent de l'émission. Donc allez-y, participez à cet engouement.